Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Labomatique. Vous êtes sur Radio Campus Rennes 88.4 et aujourd'hui nous allons parler chimie et cuisine avec Monsieur Hervé Kiss, chercheur auprès de l'INRA de Paris. J'ai pu le contacter lors de sa venue au Diapason à Rennes 1 le 27 septembre dernier afin de nous expliquer ce qu'il en est de la cuisine note à note et de la cuisine moléculaire et des apports de la chimie d'aujourd'hui à la cuisine de demain. Bonjour Monsieur Hervé Kiss, pouvez-vous vous présenter brièvement ainsi que vos travaux dans la cuisine moléculaire et la cuisine note à note?
Alors, ça fait beaucoup de questions d'un coup. Alors, je sais rien. Alors, me présenter. Bon, alors, je m'appelle donc Hervé Kiss, je suis chimiste. Enfin, chimiste, c'est toujours quelque chose qu'on a dans le cœur. Enfin, quand on dit. De la même façon qu'on n'a pas tous ces arrière-grands-parents des mêmes villages. Et du coup, on n'est pas breton, on n'est pas alsacien, on est des tas de choses à la fois. Quand on dit je suis chimiste, c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que j'aime beaucoup la physique, mais j'aime aussi la biologie, j'aime la littérature, j'aime l'histoire, bref. Enfin, je suis chimiste, on va dire ça pour simplifier. Ce qui est vrai, c'est que je réponds souvent à cette question en disant nous sommes ce que nous faisons. Donc si on ouvre mon agenda, on trouve que je suis au laboratoire et dans un laboratoire de chimie, donc je suis chimiste. Voilà. Alors maintenant. On va se débarrasser rapidement de la cuisine moléculaire. Alors, non pas parce que c'est pas bien, mais simplement parce que je crois que le travail est à peu près fait, même s'il n'est pas... De mon point de vue, pour ce qui me concerne, il est fait, et maintenant, la transformation va se faire tranquillement. Alors, la définition de la cuisine moléculaire, c'est de la cuisine, c'est donc pas de la chimie, hein, et c'est une cuisine qui se fait avec des ustensiles rénovés. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre un fouet... Pour battre des blancs en neige, on met un blanc d'œuf dans un siphon, on met une cartouche de gaz, on appuie sur le bouton et on a un blanc d'œuf battu en neige en une seconde. C'est quand même plus moderne que de battre avec un fouet comme au Moyen-Âge. Alors ça, c'est la cuisine moléculaire qui a été introduite il y a 30 ans, que j'ai introduite il y a 30 ans et qui se développe dans tous les pays du monde. Donc pour moi, c'est fait, il n'y a plus à le faire. Ça continue, hein, c'est-à-dire que aujourd'hui, lentement, les cuisiniers s'équipent d'évaporateurs rotatifs, de sondes et ultrasons, de matériel que j'ai proposé il y a 30 ans. Hein. Mais c'était il y a 30 ans que j'ai fait ça. Donc maintenant, c'est plus la peine d'y penser, pour ce qui me concerne. C'est une cuisine, d'ailleurs, il faut le dire, qui est faite pour le peuple, pas pour les élites. Hein. Et ma grande joie, c'est d'avoir vu dans un catalogue de vente par correspondance très très populaire, je vous dirais pour la marque, mais le mois dernier, ils vendaient des siphons. Donc c'est gagné. Voilà. Alors maintenant... La cuisine note à note. Alors, la cuisine note à note, c'est beaucoup plus excitant parce que, à mon avis, c'est le futur. Là encore, c'est de la cuisine, donc c'est pas ce que je fais au laboratoire. Hein, on est bien d'accord. Au laboratoire, moi, je fais de la chimie. Ça n'a rien à voir avec ce que je propose en tant qu'intellectuel engagé. Mais c'est donc la cuisine note à note, c'est l'intellectuel qui propose cette nouvelle cuisine. Et cette nouvelle cuisine consiste à ne plus utiliser de fruits, de légumes, de viande ou de poisson, mais à utiliser des fractions de ces objets-là. Par exemple, vous voyez, on prend une betterave, ben avec ça, on fait du sucre, qui s'appelle le saccharose. Ben, le saccharose est une fraction de la betterave, et c'est un composé quasi pur. C'est-à-dire qu'on prend du sucre de table, il est pur à 99,9%. Bon. Alors, de la même façon, si vous mettez, on parle de Bretagne, on va parler de chou-fleur. Si vous mettez un chou-fleur dans un appareil d'osmose inverse, vous pouvez récupérer son eau et vous séparer le reste. Si vous mettez des carottes, vous pouvez séparer des sucres, des acides aminés, des pigments, par exemple le carotène, qui est un pigment de la carotte. Et donc l'idée, c'est de proposer que les agriculteurs à la ferme séparent l'eau du reste, vendent le reste, c'est-à-dire des fractions qui ont de la valeur ajoutée, ce qui va donc enrichir les agriculteurs, et puis ça évitera de transporter de l'eau, c'est-à-dire que quand on transporte des tomates, par exemple, un 10 tonnes de tomates, on pourrait le réduire à 500 kilos sur une moto. Donc ça fait beaucoup d'énergie pour transporter de l'eau. Alors, de l'autre côté de la chaîne, il faut que les cuisiniers sachent utiliser ces fractions pour en faire la cuisine. Et c'est pour ça que je promeux cette cuisine note à note, qui est une cuisine qui utilise ces fractions. Voilà. Alors, évidemment, ça pose de tas de nouveaux problèmes, hein, exactement comme ça a été le cas pour la musique de synthétiseur dans les années 50. Et aujourd'hui, si on regarde bien la musique de synthétiseur, elle est pas si compliquée qu'on l'avait dit, et elle est partout. Toutes les radios, il y a des synthétiseurs. Donc c'est pas, on va trouver de la même façon des moyens pratiques et des recettes. Et c'est ça que je suis en train de constituer. J'anime beaucoup de réseaux de chefs pour y arriver. J'espère que du point de vue de la demande, c'est-à-dire du point de vue des cuisiniers, ça viendra vite. Si les cuisiniers le font, le public le fera, et c'est ça mon objectif, c'est que vous et moi, sans beaucoup de pouvoir d'achat, on fasse cette cuisine-là, parce que je pense que c'est une cuisine qui est plus raisonnable de beaucoup de points de vue, alors du point de vue écologique, du point de vue nutritionnel, du point de vue physiologique, du point de vue artistique, du point de vue politique, de tout, beaucoup de points de vue. Alors, il y a beaucoup de travaux à faire, hein. Des travaux artistiques pour les cuisiniers qui vont faire la fête, mais il y a un grand travail de technologie pour enseigner aux agriculteurs à faire ce fractionnement et ce craquage des produits agricoles. À noter que les techniques existent déjà pour ça, hein. Par exemple, le centre INRA de Rennes a été pionnier dans le fractionnement et le craquage du lait. Le centre INRA de Montpellier, lui, enfin de Pêche-Rouge, est pionnier dans le craquage et le fractionnement, enfin le fractionnement et le craquage du raisin. À Nantes, à l'INRA de Nantes, ils sont très très bons pour l'étude, par exemple, du blé et de ses produits. Donc les techniques sont là, elles ne sont pas complètement adaptées à tous les agriculteurs, mais c'est pas grand-chose d'adaptation. Et dans mon cours de 2012, sur la cuisine automate précisément, on a fait une démonstration d'un fractionnement, en particulier avec des carottes que j'avais achetées chez l'épicier du coin. Alors voilà pour la cuisine note à note. Et puis, vous m'aviez posé une question. Ah oui, alors quelles sont les relations avec l'INRA de Rennes? Alors l'INRA est une grande famille, mais enfin mon laboratoire il est à Paris, pas à Rennes. À Rennes j'ai beaucoup d'amis, et surtout j'essaye de faire qu'on crée bientôt un pôle régional sciences et culture alimentaire qui animerait les actions de réconciliation des divers publics régionaux pour la Bretagne. Et ça, alors il y a un pôle qui est au Pays de la Loire, qui s'est créé il n'y a pas longtemps, il faut absolument créer autour de Rennes, Brest, etc., Quimper, un pôle régional sciences et culture alimentaire. Ça sera nécessairement avec l'INRA de Rennes, et j'invite mes collègues à me contacter pour en parler.
Voici un projet intéressant. Vous proposeriez de faire de la cuisine note à note quelque chose d'accessible au plus grand nombre. Concrètement, comment comptez-vous rendre ce travail de laboratoire accessible aux ménages ?
Les moyens pour fractionner... Pardon, il y a deux questions. Pour cuisiner, c'est pas très difficile. Les recettes, elles sont en ligne et on fait la cuisine comme on faisait la cuisine, sauf que les ingrédients ont changé. Et donc, si les ingrédients ont changé, les techniques ont changé. C'est-à-dire... parfois c'est beaucoup beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Bon, mais si on veut faire quelque chose de compliqué, on fait quelque chose de compliqué. La question artistique, c'est pas la question de la cuisine, c'est une question artistique. Quand on dit c'est bon, ça veut dire c'est beau à manger. Et pour ça, on peut décider de faire un tableau où on mettra 10 ans à le réaliser, où on peut faire un coup de pinceau et ça n'est qu'un second. Donc ça, c'est pas la question. Donc là, la question culinaire, il faut que des artistes produisent des recettes, et ça, il y en a de plus en plus que je mets en ligne gratuitement. Alors maintenant, pour les agriculteurs, quand on a fait une démonstration pendant mon cours, j'avais amené ma centrifugeuse de cuisine de la maison, et j'avais acheté des carottes, donc on a déjà passé les carottes à la centrifugeuse. Donc là, on récupère la pulpe, c'est-à-dire, en fait, c'est de la cellulose, hein, comme du coton hydrophile, comme le coton de votre t-shirt, et d'un autre côté, on récupère un jus orange. Alors ce jus orange, qui est le jus de carotte, on va dire, ça, on l'a mis dans une espèce de gros tuyau qui faisait à peu près un mètre de haut, qui était alimenté par une pompe. Et ce tuyau, c'est une cartouche d'osmose, de filtration. Hein, et donc, on a fait passer ce jus, on l'a filtré de façon un peu moderne, et on a récupéré l'eau pure d'un côté, et puis le reste de l'autre. Alors si ensuite on le fait passer dans une deuxième cartouche dont les tailles des pores sont plus gros, on va séparer les composés en fractions différentes. Ça existe déjà. C'est comme ça que toute l'eau du robinet se fait. Hein. Il y a près des villes, il y a des centrales d'osmose inverse. Et dans le fond, c'est de la filtration. C'est exactement le même mécanisme que les carafes que vous avez sur vos tables et qu'on achète en supermarché et qui font de l'eau pure à partir de l'eau avec une cartouche de filtration. Sauf que là, on met avec une pompe, ça va plus vite. L'investissement, c'est 5000 euros. 5000 euros, c'est moins cher qu'une cuve de vigneron. Donc, pour une exploitation agricole, c'est possible.
Et au niveau de la consommation domestique pour les ménages, comment est-ce qu'on s'y prendrait ?
Les foyers ne vont pas faire ce fractionnement. Ma proposition, c'est que ce soit l'agriculteur qui fractionne. Les foyers, eux, ils recueillent des poudres ou des liquides, et c'est ça qu'ils assemblent pour faire des plats.
D'accord. Donc,
eux, ils font la cuisine. Vraiment... Mais dans le fond, des poudres, on les connaît. On a déjà du poivre, des épices. On a des tas de poudres en cuisine. Quand vous prenez de la gélatine, elle est en feuilles ou en poudre. Mais si vous mettez de la gélatine avec de l'eau, vous faites un gel. Un gel de gélatine, c'est un aspic. La confiture, c'est pareil. On peut prendre une poudre de pectine et à ce moment-là, on met du jus de fruits. On fait une confiture et le goût, on y met ce qu'on veut dedans. Alors, je dis pas qu'il faut que tout soit sous forme de gelée, hein, c'est pas très intéressant. Justement, la question, c'est d'apprendre à faire des consistances qui soient un peu amusantes.
Au final, on passe de la chimie à la science politique en repensant le mode de production des denrées alimentaires, en replaçant les agriculteurs au centre de la vie économique française, c'est bien ça ?
Oui, c'est très important que les agriculteurs s'enrichissent, parce que la sécurité alimentaire d'un pays repose sur eux. Et on peut pas, je crois pas que ça soit très raisonnable. Enfin, d'abord, il n'y a pas de raison qu'une population particulière soit pauvre. Bon. Ensuite, il n'est pas raisonnable qu'une nation, que la survie d'une nation dépend d'une population qui est pauvre. Mais il y a beaucoup de choses à la fois. Un agriculteur qui est pauvre, il ne peut pas s'occuper de son outil de production. Il ne peut pas le chouchouter, on va dire. Or, l'outil de production des agriculteurs, c'est l'environnement et c'est les paysages. Donc, déjà, nationalement, il est très très important que l'ensemble de la nation prenne en compte cet environnement et ces paysages. Bon. Alors, il n'y a pas que ça. Quand on transporte des carottes ou des tomates, enfin, les produits agricoles en général, entre le champ et l'assiette, il y a 45% de gaspillage. C'est-à-dire, de gaspillage, ça veut dire qu'on n'a pas gaspillé. C'est-à-dire qu'il y a des pertes, il y a des fruits et des légumes qui pourrissent. Hein. Or, la loi de 1905 veut qu'on vende des produits sains, loyaux et marchands. Sains, ça veut dire qu'ils ne sont pas intoxiqués. Loyaux, ça veut dire que si on vend des tomates, c'est des tomates. Et marchands, ça veut dire qu'ils ne sont pas pourris. Et donc, on ne veut pas vendre des objets, des aliments qui seraient endommagés. On n'a pas le droit. Et c'est très bien, parce que c'est comme ça qu'on a une sécurité des aliments. Mais du coup, 45%, ça fait beaucoup. Or, si à la ferme, on retire l'eau, les poudres qu'on transportera, elles ne pourrissent pas. Donc, on double quasiment la production agricole par deux. Alors, à une époque, on se préoccupe de 9 milliards d'êtres humains sur Terre en 2050. Je crois que c'est une piste qui mérite d'être explorée.
Ça me rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on pensait qu'en 2000, on mangerait que des pilules. Qu'en pensez-vous ?
Oui, les aliments en cachet ou en pilule ou en tablette, c'est pas possible du point de vue mathématique. Enfin, c'est complètement impossible. Alors, le raisonnement, il est très très simple. Hein. Un être humain, il faut au minimum 1500 calories pour vivre dans une journée. Si on prend le composé le plus énergétique de notre alimentation, c'est l'huile. Et avec de l'huile, il faudrait à peu près 350 grammes. Donc on voit bien que c'est pas un cachet ni une pilule. 350 grammes, c'est déjà une tablette de beurre, une grosse tablette de beurre. Et avec ces 350 grammes, on n'a pas l'azote. Nous, on est fait d'azote. Hein, il faut qu'on mange de l'azote. Quand on prend la graisse, il n'y a pas d'azote dedans. Donc finalement, on va facilement doubler ou tripler. Alors, des pilules nutritives qui pèseraient 1 kilo, moi, je trouve ça un peu rigolo. Non, c'est du fantasme. Hein. Il faut mettre le fantasme de côté. Il vaut mieux se demander vraiment ce qu'on mange, pourquoi on le mange. Et à ce moment-là, on s'aperçoit de choses bizarres. Pourquoi mangeons-nous des poulets rôtis comme au Moyen-Âge ? Voilà la vraie question. Aujourd'hui, on n'écrit plus avec un stylet sur une peau de bête. On a un ordinateur. Donc, comment ça se fait que, du point de vue de l'alimentation, on soit resté si préhistorique, en quelque sorte. Et ça vaut le coup de se poser la question. Ça vaut toujours le coup de se poser des questions, d'ailleurs.
J'espère que cette interview vous plaît, mais nous allons maintenant faire une petite pause musicale avec Wind Up Doll du groupe The Oubliettes.
Oh, wind up doll, everyone knows. Wind it up and away it goes. Does just what it's meant to do. Guess I'm kind of a wind up dolly too. Wind me up, I really walk. Wind me up.
Toujours sur Radio Campus Rennes 88.4, nous sommes toujours dans le Labo Matic et c'était Wind Up Doll de The Oubliettes. Nous allons maintenant reprendre la suite de notre entretien avec Hervé Tiss. Parlez-nous des outils que vous proposeriez pour la cuisine note à note.
Les outils pour la cuisine note à note, on en a déjà testé. Pour l'instant, les cuisiniers qui ont fait la cuisine note à note l'ont fait avec leurs outils de cuisine classiques. Il n'y a rien eu de changé. C'est-à-dire des casseroles, des fouets, des machins. On peut très bien faire ça ainsi. Après, si on veut faire des outils plus modernes, on a des outils plus modernes.
Dans votre conférence, vous avez parlé du fait qu'utiliser des outils classiques qui ont très peu évolué depuis le Moyen-Âge, concrètement, entraîne des pertes au niveau de l'énergie utilisée dans la cuisine et éventuellement en nutriments.
Ouais, enfin, les nutriments, non, les nutriments, j'en parle pas, parce que le public, et nous-mêmes, hein, on est complètement inconséquents. On veut manger sain, mais on fait des barbecues. Alors, barbecue, c'est plein de basopyrène cancérogène, tout le monde le sait, et ça empêche personne de manger des barbecues. On veut manger des oméga-3, mais à 4 heures, on mange du chocolat et on ne va pas demander au chocolat s'il contient des oméga-3. Donc moi, je parle assez peu de nutrition, enfin de diététique, plus exactement. Ni de toxicologie, parce que le public est inconséquent de ce point de vue-là. On fait des révolutions pour des résidus de pesticides et on s'intoxique avec des benzopyrènes. C'est pas raisonnable. Moi, je trouve que quelqu'un qui mange un barbecue devrait être interdit de participer au débat sur les résidus de pesticides. C'est pas bien. Je trouve ça très très mal même. Alors maintenant, sur les outils, oui, une plaque à gaz gâche 80% de l'énergie. C'est un fait. Bon, en hiver, ça chauffe la pièce, c'est bien, hein, mais en été, c'est du gaspillage total. Donc ça fait très longtemps que l'induction devrait être partout, par exemple. C'est parce que l'induction, c'est seulement 20% de gaspillage, c'est plus 80%. Donc, mais voyez, le four à micro-ondes, l'induction, etc., à chaque fois, on a le même type de remarque. On nous dit, ouais, mais le micro-ondes fait tourner les molécules à l'envers. Une molécule qui tourne à l'envers, ça ne veut rien dire, quoi. C'est un truc d'idiot. Alors, il y a ces peurs qui sont alimentées par des salauds, qui sont des marchands de peurs, Là, en ce moment, on est en pleine affaire OGM, où on nous agite qu'il y a des grosses tumeurs, on nous montre des photos, enfin... Et c'est quand même des marchands de peur. J'ai parlé des résidus de pesticides, mais enfin, les résidus de pesticides, on dit que les agriculteurs sont empoisonnés, mais enfin, c'est quand même un fait que c'est eux qui ont la plus grande espérance de vie en France. Donc arrêtons avec ces marchands de peur, c'est un scandale.
Mais n'avez-vous pas peur des marchands de peur, justement, et de l'usage qu'ils pourraient faire de vos travaux ?
Vous savez, les marchands de peur, on ne pourra pas les empêcher. Le monde, il tourne avec des gens bien et des gens malhonnêtes. Bon, bah, y a des gens malhonnêtes, il faut faire avec. Moi, je m'en fais pas tellement. Vous savez, sur la cuisine moléculaire, où il y a eu le même type de questions, je proposais donc des alginates, des agar-agars, des carrageenan en 1980. Mes copains cuisiniers qui avaient peur me disaient « tu vas nous empoisonner avec tes saloperies ». Le jour où il y a eu la crise de la vache folle, en 15 jours, ils avaient changé. Alors, moi, je vois, et nous voyons tous une crise de l'énergie qui est devant nous, qui est là. Hein. L'huile d'essence à 2 euros, on y est. Hein. Le jour où l'énergie vaudra cher, on cuisinera plus comme au Moyen-Âge. Donc ça va être résolu, marchand de peur ou pas, j'en ai rien à taper. Et donc la cuisine va s'imposer rien que pour cette question-là.
On sent une véritable vision et un engagement politique. Mais si on parlait plutôt de l'homme de science, sur quoi travaillez-vous en ce moment ?
Ah oui, enfin c'est compliqué parce que les travaux du moment, vous voyez, c'est... Là, il m'a pris, enfin ça date depuis une semaine, j'ai trouvé un article de Jean-Marie Lenne sur les dynamères, qui sont des polymères qui se réorganisent. Cet article est très bien, je sais qu'il y a des dynamères en cuisine, mais je cherche une expression quantitative de cet article. C'est-à-dire je cherche à le transformer en équation.
Donc au fond, vous êtes aussi un peu un mathématicien, non ?
Non, je suis chimiste, mais vous voyez, la chimie, c'est une science. Et une science, il y a deux pieds. Il y a un pied expérimental et un pied calculatoire. La science fait l'hypothèse que le monde est écrit en langage mathématique. Donc, on est scientifique si on calcule. Le calcul fait partie de la journée de tous les jours. Hein, c'est essentiel. La science a pour fonction de découvrir. Découvrir, ça veut dire qu'on produit des concepts et des notions qu'on n'avait pas par le passé, qui permettent de vivre, enfin qui font vivre différemment. Et les mathématiques sont une méthode pour y arriver. Vous voyez, quand on parle de la convection, la convection, c'est le fait que l'air chaud monte, ça a quand même été découvert. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelqu'un qui l'a identifié un jour, et maintenant, pour tout le monde, c'est évident. Les émulsions, enfin, je me souviens par exemple en 1980, quand je disais que la mayonnaise est une émulsion, les gens m'ont regardé avec des yeux ronds. Aujourd'hui, il n'y a plus de doute qu'il y a des gouttelettes d'huile dispersées dans l'eau quand on fait une mayonnaise. Vous voyez, les mentalités changent parce que les notions introduites changent aussi.
Auriez-vous un petit mot à l'adresse des étudiants de chimie de Rennes 1 ?
Oui, j'ai un mot pour les étudiants en chimie. Je propose de considérer qu'il y a la science et il y a ses applications. Alors, la science chimique va attirer des chimistes qui veulent être des scientifiques. J'ai l'impression qu'on a trop crié socialement « vive la science » et qu'on a suscité des tas de vocations, en quelque sorte, de gens qui, en réalité, sont pas faits pour cette discipline. La science, c'est une discipline très particulière. Il faut être fêlé, il faut y penser toujours, la vie de famille compte pas par rapport à ça. Je pense pas qu'on puisse faire de la science en vivant comme on l'entend normalement, quoi, avec du 35 heures, avec des vacances, enfin, je suis pas sûr que ce soit possible. En revanche, ce que je sais aussi, c'est que dans les applications de la chimie, il y a donc de la place pour des ingénieurs et pour des techniciens. Ce sont des très très beaux métiers, et on a besoin de gens de talent pour être ingénieur de recherche dans l'industrie, pour développer des industries, pour penser à des innovations. C'est très excitant. Et j'aurais tendance à dire, vive la technologie. Et socialement, nous devrions crier, vive la technologie. Nous devrions, comme Louis Figuier, il y a un siècle, parler des merveilles de l'industrie. Alors évidemment, l'industrie peut faire du bien comme du mal. C'est-à-dire qu'avec l'idée de l'atome, on peut faire Hiroshima, on peut faire du nucléaire civil et de l'électricité. Mais donc, ça, c'est le choix de l'ingénieur, et c'est son éthique et c'est sa responsabilité. Mais je crois que on a vraiment besoin de grands ingénieurs, des ingénieurs de talent pour faire de la belle technologie et donc de la technique derrière.
Voilà, c'était donc Hervé Thys qui a aimablement accepté de répondre à nos questions pour le Labomatique. Labomatique. Nous allons devoir nous quitter. À très bientôt sur Radio Campus Rennes pour un nouveau sujet du Labomatique. En compagnie de Jacques Bouffette, géologue auprès du CNRS et enseignant de l'Université de Rennes 1, nous allons parler de la ville de Rennes et de l'histoire que nous racontent ces pierres. Merci et à bientôt.